Bonjour à tous. Il fait un peu frais ce matin, hein, vous trouvez pas? Alléluia, on va partager la parole de Dieu. Je vous propose de prier pour ce moment, de remettre ce temps à Dieu. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci Seigneur parce que ce matin tu vas encore faire tomber des forteresses dans les cœurs. Ce matin tu vas encore parler à chacun de nous. Et je te prie que nos cœurs, nos oreilles spirituelles soient ouverts à ce que tu veux faire ce matin. Merci pour ta grâce, merci pour ce moment, merci pour cette grâce de se retrouver en église ce matin, entre enfants de Dieu. Amen. Alors, mon titre ce matin c'est « Quand la parole reprend son autorité ». Si je vous demandais ce matin, si on faisait un petit sondage, on lance un petit sondage et je vous demande « Qu'est-ce qu'il faudrait pour que votre foi soit fortifiée ?» Qu'est-ce qu'il faudrait pour que votre foi devienne inébranlable? Et je pense, sans me tromper, que les résultats du sondage, en grande majorité, montreraient à peu près les mêmes réponses. J'aimerais voir une guérison spectaculaire devant moi, quelqu'un guérir, un membre repoussé. J'aimerais voir des anges. J'aimerais voir Jésus, lui-même. Si je voyais Jésus, alors là... Là, je pourrais faire, j'aurais plus aucun doute ni rien du tout. Et vous savez, nous, en tant qu'êtres humains, on peut se dire c'est logique, parce que on a nos yeux charnels, et souvent on vit simplement parce que l'on voit. Mais ce matin, on va découvrir à travers l'histoire de deux disciples qui ont marché à côté du plus grand des miracles, hein, là, à côté de Jésus ressuscité. Eh bien, qu'en fait, ça ne suffit pas. Ces deux personnes étaient quand même plongées dans le désespoir et dans le doute. Alors, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans Luc 24, dans les versets 13 à 35. Je vous lis le début du passage. Le même jour, deux disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Alors ce passage, il se passe 3 jours après la crucifixion de Jésus. Il se passe le jour même où Jésus est ressuscité. Et on voit dans ce passage, donc, il y a deux disciples de Jésus, qui quittent ce jour-là Jérusalem. Ils étaient sans doute venus à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Et là, ils quittent Jérusalem et ils rentrent à Emmaüs. Alors Emmaüs, on ne sait pas exactement où c'est. La parole nous dit que c'est à 12 kilomètres de Jérusalem. Et en chemin, ces deux personnes sont occupées à discuter. Alors on ne sait pas encore de quoi, mais en tout cas, ils discutent de ce qui s'est passé durant tout ce temps pascal. Puis durant leur route, il y a une personne qui va se joindre à eux. On lit la suite dans Luc 24, 15 à 16. « Et il arriva, comme ils s'entretenaient et raisonnaient ensemble, que Jésus lui-même, s'étant approché, se mit à marcher avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Donc on l'a compris, cette personne qui vient voir ses deux disciples qui rentrent à Emmaüs, c'est Jésus. Mais la parole nous dit qu'ils sont comme empêchés de le reconnaître. Dans la version Darby, il est dit « Leurs yeux étaient retenus de manière qu'ils ne le reconnurent pas. » Donc ce n'était pas un problème de vue ou parce que ces deux gars-là, ils n'étaient pas physionomistes et ils ne reconnaissaient pas Jésus. Hein. C'était la volonté directe de Dieu. Il n'a pas permis qu'ils reconnaissent Jésus. Et alors Jésus va s'adresser à eux. Luc 24, 15, 17. Et il leur dit « Quels sont ces discours que vous tenez entre vous en marchant et vous êtes tristes ?» Jésus, sans se faire connaître, il va leur demander « Qu'est-ce qu'il y a? De quoi vous parlez ?» Et je trouve la façon touchante dont Jésus s'approche. Il s'intéresse à eux et il voit qu'ils sont tristes. Et il demande « Mais pourquoi vous êtes tristes ?» Juste ces quelques mots, moi ça me montre encore, comme Johanna a parlé du cœur du Père, le Papa qui s'approche. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes triste? Il va vouloir savoir ce qu'il y a au fond de leur cœur. Ils se soucient. Et Dieu s'intéresse à vous, à chacun de vous. Et comme Jésus, dans le secret, il peut venir auprès de vous et vous dire « Mais pourquoi tu es triste ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ?» Il n'est pas indifférent à ce que tu vis. Les disciples, ils vont alors lui dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, et sans détour. Ils pensent même lui enseigner les choses. C'est quand même un peu ironique. Hein. Donc on va lire dans Luc 24, 18 à 24. L'un d'eux, un dénommé Cléopas, alors Cléopas c'est beau, ça veut dire la gloire du Père, si vous cherchez un prénom, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? Quoi ? Leur dit-il. » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël, mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. » On sait maintenant pourquoi ces deux disciples, de quoi ils discutaient et pourquoi ils étaient tout tristes. En fait, il y a deux causes majeures à leur tristesse qui ressortent dans ces quelques mots qu'ils vont dire à Jésus. Premièrement, ils pensaient que le Messie, Jésus, devait les libérer, pas du péché, mais de la domination des Romains. Cela faisait presque 100 ans que le peuple d'Israël était sous domination romaine. Et eux, ils pensaient que le Messie allait venir les libérer de Rome. C'était une pensée qui était assez répandue à cette époque. Le Messie devait venir pour libérer de cette emprise. Alors vous imaginez, quand ils ont vu ce libérateur sur la croix mis à mort, ce qui s'est passé dans leur cœur. Ils se disent, mais non, c'est pas lui qui va nous libérer de Rome, finalement. Et puis, la deuxième cause qu'on voit dans leur discours, dans ce qu'ils disent à Jésus, c'est l'incrédulité face à la résurrection de Jésus. Alors là, c'est quand même assez fort. Je pense qu'ils avaient très bien entendu que Jésus avait annoncé sa résurrection le troisième jour. Mais ce qu'ils retiennent, c'est que Jésus n'a pas été vu au tombeau. Il faisait sans doute partie des personnes qui sont citées au verset un peu plus haut, dans le verset 11, Luc 24, 11, quand les femmes viennent toutes contentes rapporter le témoignage, Luc 24, 11, mais ils prirent leur discours pour des absurdités et ils ne crurent pas ces femmes. Vous savez, des fois, il faut croire les femmes. Hein. Et là, ils ont rejeté ce qu'elles avaient dit. Il y en a qui sont allés, ils ont vu tout comme elles ont dit, mais ils n'ont pas vu le corps. Donc c'est fini, nous. On se barre, on s'en va de Jérusalem, on rentre chez nous. Leur fausse certitude sur la mission de Jésus et leur cœur qui ne veut pas croire à ce que Jésus avait annoncé, sa résurrection après trois jours, et ceci malgré les témoignages des sœurs, les poussent dans la tristesse et dans le désespoir. Elles les poussent à s'éloigner de ce qui est en train de se passer à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, c'est l'ébullition, il se passe plein de choses. Et eux, ils s'en vont de l'endroit du réveil. Et c'est précisément parce qu'ils sont arrivés, le troisième jour est arrivé, qu'ils s'en vont. Parce qu'ils disent, il ne se passera plus rien en fait. Jésus n'est pas ressuscité, donc ils abandonnent. Et ils décident de quitter Jérusalem et rentrer chez eux. Et l'ironie, c'est qu'ils marchent à côté de Jésus, celui qui est ressuscité, mais ils ne le savent pas encore. Et ils rentrent chez eux, persuadés que les trois jours sont écoulés, que en fait c'est un échec, qu'ils se sont trompés. Et je crois que chacun de nous, nous pouvons nous retrouver dans ces deux disciples. On peut avoir aussi une fausse image de Jésus. Vous savez, avoir l'image de Jésus, un peu, excusez-moi du terme, mais le génie d'Aladin. C'est quoi le génie d'Aladin ? Frottez la lampe, il sort, vous faites vos trois vœux, il vous les donne. Jésus n'est pas le génie d'Aladin. Jésus n'est pas là pour exaucer tout ce qu'on aimerait qu'il exauce pour nous. Il n'est pas là pour exaucer tous les désirs de nos cœurs. Il n'est pas là pour nous donner toujours raison. Et vivre dans cette pensée-là va nous conduire irrémédiablement à la tristesse, à l'amertume, à la désillusion. Si par exemple, je prends une situation concrète, vous avez un collègue embêtant auprès de vous, et vous priez, Seigneur, enlève ce collègue, parce que je ne peux plus le supporter. Et 5 jours après, votre chef vous dit, tu vas bosser avec lui là, sur ce projet. Et tu dis, mais Jésus, j'ai prié pour que tu enlèves ce collègue, et tu me fais bosser avec lui maintenant. Eh ouais. Eh oui. Jésus nous a donné sa vie pour que nous puissions lui donner la nôtre. C'est à nous de découvrir et de désirer rentrer dans ses plans à lui, pas le faire rentrer dans nos plans à nous. Car c'est lui qui est souverain. Et voyez, ses disciples, ils avaient leur vision à eux. Ils disaient, lui, il va nous libérer de Rome, parce qu'ils en avaient marre de ça. Mais ce n'était pas ça le plan de Dieu. On peut se reconnaître également dans l'incrédulité de ses disciples. Ils font preuve de cette incrédulité parce qu'ils veulent voir les choses physiquement, comme on le disait tout à l'heure. Et le « mais » qui va mettre un doute à la parole de Dieu. Notre raisonnement, ce que l'on pense, ce qu'on pense qu'il faut qu'il se passe, que ce qu'on doit voir, va être contraire à la parole de Dieu. Là aussi, rester dans cette forme d'incrédulité va nous conduire irrémédiablement à perdre la paix, la joie que Dieu a prévue pour nous. Parce que nous voulons confronter la parole de Dieu à nos propres raisonnements. Et ça ne marche pas. C'est la parole de Dieu qui est la vérité, pas mes pensées à moi. C'est ce que veut faire lui dans ma vie. C'est comment lui va s'y prendre. Les disciples pensaient qu'ils allaient envoyer les hommes allaient voir Jésus, c'est bon. Non, ça ne s'est pas passé comme ça tout de suite. Et eux, ça les a chamboulés parce qu'ils avaient déjà leur film dans leur tête. Ôtons ces films, laissons Dieu faire. Il est souverain. Mais ce qui est encourageant dans tout ça, enfin moi ce qui me touche aussi, c'est qu'on voit encore l'amour de Dieu. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à Jérusalem et Jésus prend le temps d'aller sur ce petit chemin avec ces deux gars-là. Comme s'il allait chercher les deux brebis qui étaient perdues là, qui s'en allaient du troupeau, qui allaient les ramener. Et il va prendre du temps avec eux. Et combien de fois l'a-t-il fait avec nous ? Il faut écouter. Chaque fois qu'on s'écarte, Jésus va essayer de nous ramener. Mais il faut être à l'écoute, simplement. Alors reprenons un petit peu la suite du texte. Donc Jésus, il a écouté attentivement, il n'a rien dit. Et on pourrait se dire, vas-y Jésus, c'est le moment. Ouvre leurs yeux qui voient qui tu es. C'est ça qu'on attend, nous. Hein. On n'est pas dans Patron Incognito, hein, mais un peu, quoi. Ou Jésus à côté d'eux, et on se dit, mais Seigneur, c'est le moment. Là, ils ont dit leur truc, ils ont déversé leur truc. Vas-y, montre-toi et montre-leur qui tu es. Eh bien, je crois que c'est ce qu'on aurait tous fait à sa place, à la place de Jésus. Hein. Mais, encore une fois, quand on se dit ça, c'est qu'on sait mieux que lui. Mais non, on ne sait pas mieux que lui. Et Jésus va encore rester incognito. Il va dire, il va les avertir et leur dire, vous êtes incrédules, vous êtes dans l'erreur. Vous cherchez des choses, mais vous ne les trouvez pas parce que vous n'êtes pas dans la parole de Dieu. Alors, on va lire dans Luc 16, 28, 31. Je voulais juste dire que nous, on cherche toujours le visible, voilà. Jésus nous a prévenus plusieurs fois à ce sujet parce que nous, on voudrait, Seigneur, révèle-toi à ma famille, révèle-toi, montre-toi à ma famille. Si tu te montres à lui, c'est fini, quoi. Montre-toi au monde entier, après tout. Puis c'est bon, tout le monde croira en toi. Mais Jésus nous a prévenus plusieurs fois à ce sujet dans la parabole du riche et de Lazare, justement. C'est pour qu'il les avertisse afin qu'ils n'aboutissent pas aussi dans ce lieu de souffrance. En fait, le riche est en train de demander à Abraham, ça se passe dans le séjour des morts, le riche est du mauvais côté, et puis il y a Lazare qui est du bon côté dans le séjour des morts. Et là, il y a le riche qui va demander à Abraham, « Envoie Lazare pour prévenir mes frères. Renvoie-le sur terre afin qu'il croie et qui se repentent. Et Abraham va dire ces paroles. Donc le riche dit, non père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Abraham lui dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. En fait, ce que l'on voit physiquement n'est pas suffisant pour être une fondation spirituelle pour notre âme. Ça ne sera jamais suffisant. Vous pouvez voir les plus grands miracles, vous pouvez voir les plus grandes choses, les résurrections. Si le fondement n'est pas la parole de Dieu, la nourriture pour l'âme, ça doit être spirituel, ça doit être la parole de Dieu. Donc ça ne suffira pas. Notre être intérieur qui est spirituel a besoin d'un socle, d'un fondement spirituel, pas de choses visibles. Ça n'ira pas. A besoin d'une nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Donc ne laissons pas le visible définir notre vie spirituelle. Ce que je vois, ce que je ne vois pas, ne doit pas influer ma parole, ma foi en la parole de Dieu. Ce qui soutient notre être intérieur, c'est la parole vivante de Dieu. Et sans doute que vous connaissez peut-être des personnes qui ont vécu des grands miracles, des personnes qui ont vu des anges, des personnes qui ont même vu Jésus et qui malheureusement ne sont plus dans la foi actuellement. Vous voyez, la tristesse, ça ne suffit pas. Chercher simplement des choses extraordinaires ne peut donner une stabilité dans notre vie de disciple. C'est la parole de Dieu, le socle. Ce n'est pas le visible. Parce que la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Ce qui est visible, vous savez, ça va partir un jour. Jésus sait que ses deux enfants, ses deux disciples avec qui il est sur ce chemin, marchent encore par la vue. Il le sait. D'après leurs paroles, tout a été dévoilé. Et il a vu leur cœur. Il s'appuie encore sur leur raisonnement. Il s'appuie sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils pensent comprendre de la parole de Dieu. Et Jésus ne veut pas qu'il reste dans ce fonctionnement. Si Jésus s'était révélé, s'il avait dit, voilà, regardez qui je suis. C'est moi, c'est Jésus. Ça n'aurait fait qu'aggraver leur situation. Il fallait aller en profondeur dans leur cœur. La racine du problème, c'est que la parole de Dieu ne dominait pas leur vie, ne régissait pas leur vie et leurs pensées. Et le fait de se montrer, Jésus, s'il se montrait, ce n'était pas suffisant. Ça n'allait rien faire de bon. Alors Jésus va rester encore incognito. Il va prendre du temps pour eux, pour leur donner ce qui doit être la fondation de leur vie. Il va les ramener en fait à la base, la parole de Dieu. Peut-être que ces disciples-là, ils avaient entendu la parole de Dieu, sans doute. Sans doute qu'ils avaient entendu prêcher Jésus sur plein de choses. Peut-être qu'ils étaient tout le temps en retard, peut-être qu'il y avait la Coupe du Monde, ils ne pouvaient pas aller aux réunions. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire, mais ils ont quand même côtoyé Jésus. Malheureusement, ils avaient gardé leur pensée à eux. Et ils étaient encore dans une pensée humaine. La parole de Dieu ne faisait pas autorité dans leur vie. Alors Jésus va leur parler. Luc 24, 25, 27. Alors Jésus leur dit, « Homme sans intelligence dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Là, Jésus s'attaque à la racine. Ils n'ont pas la parole de Dieu dans leur cœur. Ils n'ont pas ce fondement. Donc il va leur expliquer les choses. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a plus de 300 prophéties sur Jésus. Donc il y avait le choix. Hein. Sa venue, son œuvre, son sacrifice, sa personne. On ne sait pas exactement tout ce qu'il a expliqué. Hein, je pense qu'il y a peut-être 2-3 heures de marche. Mais en tout cas, il aurait pu parler de l'agneau de Pâques, qui est le symbole de cet agneau qui a été brisé, cet agneau sans défaut, pour que l'ange de la mort passe au-dessus de la maison des Israélites, parce que le sang a été mis sur leur maison, symbole de Jésus. Il aurait pu parler sans doute, il a sans doute parlé du serviteur souffrant dans Ésaïe 53. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et il montre la victoire finale aussi. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité, prolongera ses jours. Amen. Le signe de Jonas, il l'avait expliqué aux apôtres qu'il devait rester 3 jours dans le poisson. Eh bien, Jésus aurait la même chose, vivrait la même chose. Donc tout ça, Jésus a pris du temps pour leur dire, les gars, revenez à la parole de Dieu. Vous vous trompez là, le Messie n'était pas annoncé pour libérer des Romains, mais pour vous libérer du péché, pour apporter la vie éternelle, pour apporter la réconciliation, pour vaincre le péché. Et Jésus, à travers les Écritures, va montrer que la croix n'était pas un échec, mais le plan prévu de toute éternité par Dieu, dès l'origine. Ce n'est pas en fait la fin, mais le commencement de quelque chose de nouveau. Notre foi en Christ n'est pas sans fondement. Tout avait été annoncé précisément par Dieu, à travers ses prophéties, à travers toutes les symboliques qu'on peut retrouver dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu est sans faille et Dieu l'a préservée pour nous aujourd'hui, pour qu'elle nous serve aussi chacun à notre tour de fondement. Si Dieu a permis que la parole de Dieu traverse les siècles alors que beaucoup voulaient la détruire, c'est parce que ça doit être notre fondement, ça doit rester notre fondement pour notre vie avec Dieu. Donc, Jésus va leur donner toutes ces paroles, va leur expliquer, va prendre du temps avec eux. Et finalement, ils arrivent à destination et les deux disciples ne veulent pas se séparer de cet homme. Ils ne savent pas que c'est Jésus, mais ils disent « Mais reste encore avec nous, viens manger avec nous ». Vous savez, quand vous côtoyez une personne remplie de la parole de Dieu, vous avez envie de rester avec elle parce que vous vous sentez nourri. Vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe au fond de votre cœur parce que c'est la parole de Dieu qui est annoncée, qui est proclamée. Et j'encourage les jeunes notamment à côtoyer des personnes remplies de la parole de Dieu, à chercher cette communion, à chercher ces personnes-là pour être nourries, pour être vraiment encouragées, fortifiées dans la parole de Dieu. Et Dieu nous appelle nous-mêmes à être ces porteurs de la parole de Dieu, à encourager notre prochain, à nourrir notre prochain de la parole de Dieu. C'est aussi notre rôle. Ce qu'est en train de faire Jésus avec ses disciples, Jésus veut qu'on le fasse aussi avec ceux qui sont autour de nous. Donc, on le comprend, ils ont été touchés. Ils ont dû se sentir tellement nourris par ces trésors qui leur ont été partagés qu'ils en voulaient encore plus. Et ça, c'est l'œuvre de la vérité, de la parole de Dieu qui est proclamée et qui vient guérir, qui vient consoler, qui vient ôter les mensonges et mettre un socle solide dans la vie, dans nos vies. Ces hommes, en quelques heures, n'étaient plus les mêmes, car les Écritures avaient repris leur place dans leur vie. Et Jésus va finalement s'arrêter chez eux, et au moment où il va rompre le pain, ils vont passer à table, il va rompre le pain, les yeux des disciples vont s'ouvrir et ils vont reconnaître Jésus. Et Jésus va disparaître. Et qu'est-ce qu'ils vont se dire, ces deux disciples, l'un à l'autre, Luc 24, 32. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Il y a quelque chose vraiment qui s'est passé dans leur cœur. Jésus le savait. Il a dit, c'est bon, je peux me montrer à eux maintenant. Maintenant qu'ils ont reçu la parole, maintenant qu'ils ont reçu ce nouveau fondement, maintenant je peux me montrer à eux. Dans Jean 11, 40, il est dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et souvent, nous, on veut voir, ensuite on va croire. Mais Jésus dit le contraire. Crois d'abord et tu verras ma gloire. Ne te base pas sur tes pensées, sur ce que tu attends, sur ce que tu penses voir, ou même ce que tu vois. Crois d'abord et tu verras ma gloire. Les disciples étaient maintenant bien disposés, avec un fondement dans les Écritures. Et la parole, ce qui nous est dit dans ce verset, la parole est venue mettre le feu dans leur cœur, avant même que Jésus ne se révèle. Il ne savait pas encore que Jésus, c'était Jésus, mais le feu était déjà là. Et elle va produire un effet spectaculaire, cette parole, parce qu'il nous est dit après dans le texte, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il est presque nuit, hein. Ils ont déjà fait 12 kilomètres. Ils ont dit, on repart à Jérusalem. Et cette fois, de nuit, ils doivent être quand même un peu fatigués, mais le feu était là et ils voulaient repartir sur Jérusalem, le lieu du réveil, le lieu où tout se passait en ce moment. Donc ils ont, à l'aller, ils faisaient 12 kilomètres, le visage baissé, écrasé par la réalité des circonstances romaines et la déception de leur attente humaine. Au retour, ils refont les mêmes 12 kilomètres dans l'autre sens, de nuit, fatigués sûrement physiquement, mais avec un cœur qui brûle pour Dieu. Quand la parole de Dieu vient mettre le feu dans un cœur, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Et suite à cela, ils avancent. Rien n'a changé, en fait. Les Romains sont toujours là. Le contexte politique est toujours le même, n'a pas bougé. Mais leur fondation a changé. Ils ne marchent plus par la vue, ils marchent par la foi en la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait toute la différence, la parole de Dieu. Je vais m'arrêter quelques instants. En préparant ce message, vraiment pour le Seigneur me donnait une image pour résumer un peu tout ça, pour poser ces fondements dans nos vies. Et je voudrais qu'on partage ensemble. Voilà, l'homme, il a besoin de s'appuyer sur quelque chose. L'homme sans Dieu, il a besoin d'avoir des sécurités, des choses qui le tiennent. Donc il va s'appuyer sur quoi ? Il va s'appuyer sur ce qu'il voit, il va s'appuyer sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il croit juste, sur ce qu'il a vécu, sur son vécu, sur ce qu'on lui a enseigné, sur ce qu'il imagine de bien, sur comment il pense que ça doit se passer. Et tout ça, c'est son socle à lui. Il pense que c'est solide parce qu'en fait, il le maîtrise. Il comprend les choses, il voit comment ça se passe. C'est bon, là, je suis en sécurité. Mais en fait, en dessous, c'est pourri. Ça peut s'écrouler à tout moment. Il n'y a rien de solide. Vous voyez, je vous ai mis des planches pourries. À tout moment, le socle là qu'on croit solide peut s'écrouler. Le gars qui fait confiance à son travail pour ramener sa nourriture, simplement son travail, parce qu'il dit « j'ai un bon travail, je ne le perdrai jamais », bing ! Ah, il y a une planche qui s'enlève là. Oh, c'est un peu moins stable. Donc, on vit sans Dieu dans cette sorte d'illusion qu'on maîtrise les choses parce qu'on les comprend. Mais ça n'a pas simplement cet impact. Ça vient nous mettre sous une cloche qui nous emprisonne, en fait. Cette cloche de mensonge. Vous savez, le mensonge nous emprisonne. Vivre dans un mensonge comme ça, avec ce qu'on ressent, ce qu'on pense comprendre dans notre vécu, nous emprisonne, nous met sous une cloche. Et on n'est pas libre, en fait. Parce que dès qu'on ne comprend plus les choses, ah ben je ne m'approche pas de là, parce que là, ça me dépasse. Donc je reviens. C'est un peu notre zone de confort. On pense qu'on est bien là, parce qu'on maîtrise les choses. Et le diable nous tient dans ce mensonge. Voilà, tu es bien là, tu maîtrises. Et on ne peut pas sortir de cette cloche, en fait. À moins d'accepter la parole de Dieu, à moins d'accepter de se laisser reprendre dans nos raisonnements, d'accepter qu'on n'ait pas tout compris, en fait, qu'on s'humilie un peu et dire, mais Seigneur, c'est quoi la vérité, en fait ? De redescendre un peu dans l'orgueil et demander, Seigneur, j'ai besoin de la vérité. Je reconnais que je vis une vie qui est bancale, une vie qui ne tient sur rien. Et quand on fait cette prière, Jérémie 23-29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc, qui vient briser cette cloche, qui vient briser nos entendements, qui vient nous faire sortir de cette vie étriquée, cette vie sans saveur, cette vie qui tient sur rien. Est-ce que je t'accepte ce matin que Dieu vienne te confronter avec sa parole et qu'il vienne taper sur la cloche, c'était pas une cloche, hein, je veux dire la cloche qui te retient, et qu'il vienne taper sur cette cloche pour la briser, pour te faire sortir de ces mensonges qui te retiennent. Si on l'accepte, Dieu va nous confronter à sa parole. la cloche se brise. Et voilà, il y a une ouverture. Il y a une ouverture pour sortir de là. Et il y a un chemin. Il y a un chemin devant nous. Mais regardez ce chemin. Il est presque invisible. Il est presque tout fin. On dit, mais ce n'est pas très solide, ça, en fait. Et vous voyez là, l'image qu'on a là, je pense que ça représente la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup, on a accepté que le Seigneur déracine par sa parole toutes nos fausses pensées, tout ce qu'on pensait juste, tout sur quoi on s'appuyait. Mais il ne faut pas faire ça. La parole ne fait pas que déraciner. La parole, ça doit aussi être notre fondement, notre fondation. Donc évidemment, il y a une situation d'inconfort si on reste comme ça, parce qu'on se dit, ouais, je comprends, Seigneur, que tout ce que j'ai pensé avant, c'était faux, mais maintenant, qu'est-ce que je fais là? C'est comme si je mettais un pied dans le vide, parce que, pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas encore approprié la parole de Dieu, parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, parce qu'on ne l'a pas encore proclamée, parce qu'on ne marche pas sur la parole de Dieu. En dessous, il y a un fondement, en fait. Il y a un fondement qui est solide. Il y a des choses que Dieu a proclamées sur nous. Il y a des choses que Dieu nous dit sur sa personne. Dieu est fidèle. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je vous ai mis simplement quelques exemples. On doit s'approprier ces paroles. Parce que sinon, on restera dans cette bulle. Elle est ouverte, mais on ne sait plus où aller parce qu'on ne fait pas confiance à Dieu. Parce qu'on ne connaît pas sa parole. Parce qu'on ne prend pas sa parole au sérieux. Comme ces deux disciples qui n'ont pas pris la parole au sérieux de Jésus. Jésus leur a dit, dans 3 jours, je ressuscite. Comme les disciples dans la barque, quand Jésus leur a dit, allons de l'autre côté. Il y a eu la tempête, ils ont commencé à avoir peur. Jésus leur a dit, mais vous n'avez pas foi en ce que je vous ai dit? On va aller de l'autre côté, tempête ou pas tempête. On doit, maintenant, on a reçu la parole de Dieu, il faut la proclamer, il faut la vivre, il faut parler en fonction de la parole de Dieu. Il faut chasser de nos pensées les pensées qui sont contraires à la parole de Dieu. Vous savez, on peut vivre tellement dans la peur. Moi, je vous donne un petit témoignage. Il y a 3 ans, voilà, on cherchait une maison. Et il y avait une maison juste à côté de chez nous à vendre. Et je connaissais un peu l'histoire de cette maison et je savais que la personne qui était dedans faisait beaucoup de choses occultes. Il y avait des visitations de démons, des choses. C'était assez fort. Et moi, en mon fort intérieur, je me dis, c'est pas une maison pour nous. C'est pas une maison pour nous. Je pense qu'il y avait une crainte. Je sais pas. Il y a quelque chose qui n'était pas de Dieu, en tout cas. Et je me refusais d'acheter cette maison. Et puis, c'est Blandine, je ne sais pas si elle est là ce matin, qui nous a appelé, qui nous a dit, mais il y a une maison à vendre là près de chez vous, pourquoi vous n'allez pas la visiter? Et puis là, je me suis dit, mais pourquoi je n'irai pas la visiter en fait? Oui Seigneur, qu'est-ce qui me retient en fait? Je vous ai donné la puissance de marcher sur les scorpions et les serpents, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. J'ai décidé d'aller visiter cette maison. J'étais seul ce jour-là, il n'y avait pas Nadia. Je mets le pied dans la maison. C'est la nôtre. Je n'avais même pas à la visiter plus, je savais que c'était la nôtre. Et voyez comme le diable veut nous enfermer si on n'a pas la parole de Dieu. Il nous balade comme il veut. Et on va toujours revenir dans notre caca, pardon. On va toujours revenir dans les mêmes choses. Parce qu'on est comme bloqué. Et on peut prier pour nous des heures et des heures. Si tu ne veux pas faire confiance à la parole de Dieu, tu n'avanceras pas. Si tu as un flingue avec des balles, et que tu ne sors pas pour tirer, ça ne produira rien. Je suis certain que beaucoup d'entre vous connaissent des versets clés de la parole de Dieu. C'est bien de les connaître. Il faut les proclamer. Il faut marcher dessus maintenant. Marcher en fonction, penser en fonction. C'est ça qui fait la différence. S'approprier la parole de Dieu. Elle est pour nous. Ses promesses sont pour nous. Toutes les promesses qu'il y a dans la parole de Dieu, elle est pour tous ceux qui sont en Christ. Saisissez-les. Proclamez-les. Il y a tellement de choses aujourd'hui, vous savez, on peut nous balader de droite à gauche. Tout le monde s'improvise homme de Dieu sur Internet et va sortir des bêtises. Si on n'a pas la parole de Dieu, allez hop, baladez. La parole de Dieu, ce n'est pas un luxe de la lire. Hein. C'est une nécessité pour nous. C'est une nécessité, c'est une base. C'est fondamental. C'est sur quoi on repose. Regardez, c'est notre socle. Et quand on a la parole de Dieu, on n'est plus enfermé. On peut avancer de gloire en gloire. Je marche sur ta parole, Seigneur. C'est mon fondement. C'est ma vie, c'est ce qui me tient. Et on va de révélation en révélation. Et on gagne des combats. On gagne des combats. Vous savez, beaucoup de choses ne se seraient pas passées dans la Bible si ils ne s'étaient pas appuyés sur la parole de Dieu. Je pense que la mer Rouge ne se serait pas ouverte. Hein ? David n'aurait pas battu Goliath. Sur quoi ils se sont basés ? Ils ont attendu de voir les choses ? Non, sur ta parole, Seigneur, j'y vais. Sur ta parole, j'avance. Et je sais combien les sondages sont mauvais quand on dit combien de chrétiens lisent leur Bible régulièrement. C'est 20%? Ah, 56% la lisent. Pas, la lisent pas. Et on se demande après, mais pourquoi je vais mal en fait? Mais qu'est-ce qu'il y a là? Je suis toujours attaqué, j'arrive pas à avancer dans ma vie. Mais si tu restes dans ce truc bancal là, et que tu veux pas poser le pied sur ce que dit Dieu, bah oui, tu vas rester dans cette bulle, dans ce truc bancal, où tu es chrétien certes, mais tu ne vois pas la gloire de Dieu, parce que tu ne t'appuies pas sur sa parole, parce que le diable vient la voler, et tu le laisses faire, et tu le laisses faire. Nous avons autorité pour lui dire non. Cette parole, elle est pour moi. Et je la proclame maintenant sur ma vie, sur la vie de mes enfants. Donc ne nous laissons pas voler. La parole de Dieu, elle est notre fondement, elle est essentielle pour nous. Si vous avez du mal à lire la parole, demandez au Seigneur. Demandez au Seigneur. Seigneur, révèle-moi combien ta parole est nécessaire pour moi. Combien je ne peux pas vivre sans ta parole. Révèle-moi, Seigneur. Alors ce matin, le Seigneur nous pose la même question qu'à ses disciples, peut-être. Pourquoi es-tu triste? Sur quoi es-tu en train de bâtir? Es-tu sur la route d'Emmaüs, en train de t'éloigner de l'église et du lieu du réveil? Parce que Dieu n'a pas agi comme tu l'avais prévu? Es-tu triste parce que tu t'appuies sur ce que tes yeux voient, sur tes déceptions ou sur tes raisonnements? Penses-tu aujourd'hui que ta vie, si tu n'as pas accepté le Seigneur, bah ta vie va bien? Penses-tu que tu n'aurais pas besoin de connaître la vérité? Jésus ne nous demande pas d'effacer nos doutes. Il s'approche de nous ce matin pour nous redire « Reviens à ma parole. Reviens à ma parole. Reviens sur le fondement. Reviens sur le socle. » Vous savez, je vais faire un truc, mais on avait peut-être... Oh, pardon. Là, vous croyez sur quelque chose de solide, un sol qui est solide. Mais non, en fait, il n'est pas solide. La terre, elle va disparaître un jour. Là, je monte sur la parole de Dieu. C'est plus solide, la parole de Dieu, on ne la voit pas. Parce que le monde et le ciel passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Donc, je peux m'appuyer dessus. Que le Seigneur ouvre nos yeux spirituels et nous montre sur quoi nous devons bâtir, sur la parole de Dieu. Je vous invite à vous lever. On va prier ensemble. On va demander pardon au Seigneur si on a négligé sa parole, si on n'a pas pris vraiment conscience de sa parole, si on a contré sa parole par des mets. Seigneur, pardon pour nous, Seigneur. Parce qu'on a négligé ta parole. Pardon parce que ton peuple, Seigneur, ne veut plus s'appuyer sur ta parole. Je te prie pour un retour à ta parole, Seigneur. Un retour à des guerriers, des combattants qui vont combattre avec l'épée de ta parole. Pas avec les armes de l'ennemi, mais avec l'épée de ta parole, Seigneur. Viens ce matin susciter dans nos cœurs une soif pour ta parole, un amour pour ta parole, que chaque fois qu'on ouvre ta parole, on découvre ces pierres précieuses, on les saisisse, et qu'après, on vive en fonction de ta parole, on pense en fonction, on parle en fonction, on agit en fonction de ta parole, on met en application ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous as donné cette capacité, cette autorité. Merci Saint-Esprit parce que tu vis en nous pour nous expliquer la parole de Dieu comme Jésus l'a fait à ses deux disciples. Merci Seigneur pour ta grâce et que ton nom soit élevé ce matin. Amen.